Je vous invite à regarder avec moi dans l'Épître aux Hébreux. Une fois de nouveau, nous reprenons notre étude dans le chapitre 6 et mon texte est à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Et je voudrais vous parler des dangers de l'apostasie. Le mot apostasie signifie de se détourner de la vérité, de se détourner de ce qui est clairement révélé dans les Écritures au sujet du Christ. Et dans le sens du mot, même apostasie, il comprend aussi une certaine rébellion. Ce n'est pas seulement de se détourner de la vérité, mais se révéler. Comme nous avons dans certaines nations des coups d'État, ceux qui se rebellent contre l'autorité. Alors voilà le sujet que nous allons considérer ensemble ici dans Hébreux chapitre 6, du verset 4 au verset 8. Je vais lire cet écrit car il est impossible que ceux qui ont une foi, qui ont été une foi éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. Voilà le mot qui est utilisé ici, et on peut même utiliser ce titre, le danger de tomber. Pas seulement dans le sens de tomber dans le péché, parce que nous chutons tous les jours en tant que pécheurs. Mais ici, dans le contexte, c'est dans le sens de se détourner complètement. Ceux qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Vraiment, c'est un passage sobre que nous avons à regarder ensemble aujourd'hui. Et il nous faut vraiment l'Esprit de Dieu pour comprendre comment interpréter ces versets que nous avons devant nous. Parce qu'il faut dire que c'est un passage très controversé et qui est interprété de plusieurs façons. Hors contexte, toujours est-il, nous devons étudier les Écritures dans leur contexte. Il y en a qui disent que non, voilà, nous sommes mis en garde contre la perte du salut et que ceux qui sont sauvés ont toujours la possibilité de perdre le salut. Voilà comment certains comprennent ce passage. Il y en a d'autres qui disent que Paul, pas Paul, nous ne savons pas qui est l'auteur, mais l'auteur de cette épître aux Hébreux est en train de poser une hypothèse que si c'était possible, et conclut en disant que ça ne serait pas possible, mais si c'était possible que quelqu'un se détourne de la vérité de Christ, donc il serait impossible de renouveler un tel à Christ. Mais la manière que je comprends cela, ce passage, et je le dirai dès le début, c'est que nous avons ici de véritables avertissements qui sont donnés surtout à ceux qui ont l'occasion d'écouter l'Évangile et qui sont sous l'écoute de l'Évangile. Et peut-être Il s'agit de plusieurs qui se trouvent dans nos assemblées où l'évangile de Christ est clairement annoncé. Pourtant, ce sont des gens qui ne sont pas réellement régénérés. Ce sont des gens qui sont assis, mais encore perdus, encore dans les ténèbres. Et si tel est le cas, que ceux-là se détournent maintenant et trouvent une occasion de chute face à l'évangile qui leur est annoncé, alors c'est une indication que Dieu les a laissés à leur sens réprouvés. Et donc, quand Dieu laisse des pécheurs à leur sens réprouvés, c'est impossible que cela soit renouvelé à la vérité et qu'il soit emmené encore à la repentance. Parce que Dieu seul, par son esprit, peut attirer des pécheurs à Christ dans la repentance. Donc si Dieu lui-même abandonne des gens, quoi qu'ils sont sous l'écoute de l'évangile, mais il les abandonne à leur sens naturel, bien sûr, ils entendent le message prêché, comme d'autres. Ils écoutent, mais pourtant, l'Esprit de Dieu n'a pas fait son œuvre de grâce en eux. Alors ceux-là, laissés dans cet état, ne peuvent jamais venir à Christ dans la vérité, dans la connaissance de la vérité. Alors ce sont les versets, premièrement dans les versets 4 à 6, que nous allons voir comment cela est soutenu. L'impossibilité de se repentir pour ceux qui tombent après avoir entendu et après avoir été sous l'écoute de cet évangile glorieux concernant Christ. Impossible. Le mot impossible est mis ici en position d'accent. Toujours est-il dans la manière que les Écritures sont écrites, surtout dans le grec, on met au début de la phrase ce qui est de plus important. Et ici, nous voyons le mot impossible qui est placé en position d'importance. L'écrivain aux Hébreux ne dit pas que c'est simplement difficile. Voilà comment beaucoup prennent l'évangile qu'ils entendent, surtout le véritable évangile. On ne parle pas ici des gens qui sont sous l'écoute d'un faux message, mais encore est-il ceux qui sont sous l'écoute du véritable évangile et ils disent, ah, mais c'est un message difficile à recevoir, difficile à comprendre. Voilà comment beaucoup raisonnent. Mais ici, ça ne dit pas simplement que c'est difficile pour cela, mais plutôt que c'est impossible, sans possibilité. Donc c'est un mot qui est très dur dans la manière que c'est écrit ici. C'est la même manière dans Hébreux chapitre 6 et le verset 18, où c'est écrit « Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles, notez, il est impossible que Dieu mente. » C'est le même mot. De la même manière que c'est impossible que Dieu mente, de cette manière aussi, c'est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, les puissances du siècle à venir et qui sont tombés. Cela veut dire détourner de ce message et de Christ soit encore renouvelé et amené à la repentance. Impossible. Un mot qui est qui a beaucoup de force dans la manière que c'est écrit. Et il y a d'autres passages aussi ailleurs où le même mot est utilisé. Alors voilà notre devoir en lisant ces versets de savoir, mais qui sont ceux qui étaient autrefois éclairés ou bien qui ont goûté au don céleste et qui sont devenus participants du Saint-Esprit. Est-ce que qu'il s'agit là de véritables enfants de Dieu ou est-ce qu'il y a un autre sens que nous devons tirer de cela? Donc prenons chacune de ces descriptions ici, du verset 4 au verset 6, quand il s'agit de ceux qui ont été une fois éclairés, il y a un mot qui est utilisé pour ceux qui sont nés de nouveau de l'esprit, et ceux-là sont régénérés. Régénérer veut dire rendre à la vie. Mais ce n'est pas le mot qui est utilisé ici. Ici, il s'agit de ceux qui ont été une fois éclairés. C'est-à-dire qui sont dans les ténèbres et que la lumière brille sur eux, peut-être dans leurs pensées, mais leur cœur reste toujours dans les ténèbres. C'est possible d'être éclairé par la prédication claire de l'Évangile et non pas être régénéré. Et voilà comment je comprends ce passage. Il s'agit des gens comme nous avons aussi dans nos assemblées. Nous prêchons clairement l'Évangile. C'est comme la lumière brille sur les pensées et les cœurs des gens qui viennent, mais qui restent toujours dans les ténèbres. Parce qu'il faut plus que cela, il faut l'œuvre de l'Esprit dans le cœur et non pas seulement que l'Évangile les éclaire. Il y en a qui regardent l'Évangile que nous croyons par la grâce de Dieu et par leur intellect, ils sont capables d'être éclairés, de comprendre certaines choses concernant le salut, concernant la manière que Dieu justifie les pécheurs. Mais c'est tout à fait intellectuel. C'est comme des étudiants qui prennent des notes et qui peuvent répéter ce qu'ils ont appris. Ils ont été éclairés dans ce sens, comme dans le temps des apôtres, qui prenaient les passages dans l'Ancien Testament et éclairaient les auditeurs. Et ceux qui venaient les écouter, comment Christ est l'accomplissement de toutes les Écritures. Donc, ils étaient en quelque sorte éduqués en ce qui concerne le sens de la parole de Dieu, mais non régénérés. Voilà la différence. Donc, en suivant cette même ligne, c'est écrit qu'ils ont goûté le don céleste. Là encore, il y a une différence entre goûter quelque chose et manger. Ceux qui sont régénérés par l'Esprit de Dieu, ils mangent le pain de vie. Ça devient une partie de leur être entièrement. Corps, âme, esprit. C'est comme ça que l'Esprit agit en révélant Christ dans leur cœur. Mais ici, c'est un autre mot. C'est dans le sens de déguster. L'idée ici de goûter signifie de tester. On regarde un repas, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, donc on prend une partie de ce repas et puis on met ça dans notre bouche pour manger ou déguster, tester. Et il y a beaucoup de gens qui font ça avec l'Évangile. Ce n'est pas qu'ils sont convaincus de cet Évangile dans leur cœur, mais ce sont ceux qui goûtent et ils sont là pour tester s'ils sont d'accord ou pas. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, ce n'est pas de manger, de s'asseoir et vraiment manger avec contentement de Christ et de son évangile, de sa doctrine que nous sommes en train de regarder. Particulièrement ici, cette épître écrite aux Hébreux était écrite à ceux qui étaient des Juifs. Ils avaient cet arrière-plan. Et avec toutes les traditions et les enseignements qu'ils avaient en grandissant dans leur synagogue, et que maintenant ce message de Christ prenant les mêmes passages qu'ils avaient l'habitude d'entendre lus dans leur synagogue, que maintenant de savoir que non, toutes ces écritures concernent le Seigneur Jésus-Christ. C'était une nouvelle doctrine dans leurs oreilles, mais ils étaient comme ceux qui ne mangeaient pas, ne participaient pas, n'agréaient pas entièrement, mais ils étaient là goûter et tester pour savoir réellement si ils étaient d'accord. Je dois vous dire que ce n'est pas comme ça que nous devons aborder l'évangile. Ce n'est pas à nous de tester pour savoir si nous sommes d'accord. Donc ça, c'est ce que la Bible déclare au sujet de Christ. C'est la révélation de Dieu au sujet de son Fils. Et ceux en qui l'Esprit de Dieu œuvre par sa grâce, c'est une œuvre salutaire dans le sens que ça mène le cœur de ces pécheurs à Christ et il l'embrasse de tout cœur. Bah, voici la différence entre ceux qui, pour qui Christ est le pain de vie et qui mangent de lui, en contraste avec ceux qui ne font que déguster ou bien goûter de cet évangile. Troisièmement, nous voyons ici décrit ceux qui ont eu part au Saint-Esprit. Voilà, d'autres lisent ça pour dire, ah donc, ils avaient le Saint-Esprit. Et donc, il s'agit ici des véritables chrétiens, mais qui, à un moment donné, peuvent perdre le salut. Mais encore, le mot ici, avoir part au Saint-Esprit, n'est pas la même chose que recevoir le Saint-Esprit. Avoir part, il y en a qui ont part au Saint-Esprit dans le sens que, qui sont sous la conviction du Saint-Esprit. Et en lisant les Écritures, ils se voient comme pécheurs, comme beaucoup le disent, oui, mais nous sommes tous pécheurs. Mais, laissés à eux-mêmes, ils ne viennent pas à Christ. Ils sont des participants. Chaque fois que quelqu'un prend la Bible pour lire, il faut savoir que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Donc même en prenant cette Bible et en lisant, il y en a qui ont part au Saint-Esprit, ils sont participants du Saint-Esprit, c'est-à-dire de sa parole, de ce qu'il a donné comme témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont alors dans le Saint-Esprit, ou bien que le Saint-Esprit est en eux. Il y en a beaucoup comme ça. Même au temps des apôtres, ils ont eu une démonstration de l'œuvre du Saint-Esprit lorsque les apôtres faisaient des miracles. C'était par l'Esprit du Christ qu'ils faisaient ces choses. Donc, il y en a même qui ont eu part dans ce sens, peut-être avec une guérison physique, mais leur cœur n'a jamais été transformé. Parce que c'est à Dieu de démontrer sa puissance comme il veut, mais en ce qui concerne le salut, il sauve qui il veut. Quand nous continuons dans le verset 5, ça continue dans le même sens, qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Voilà ce que je viens d'expliquer. Ceux qui lisent les mêmes passages de la Bible que nous lisons, ils goûtent Ils sont en train de tester cette bonne parole de Dieu, mais sans toutefois expérimenter la grâce de cette parole. Voilà la différence. Combien d'années nous avons lu les Écritures, mais c'était aveuglement. Nous avons goûté cette bonne parole, mais on est resté toujours incrédule ou ignorant ou dans les ténèbres jusqu'à ce qu'il a plu à Dieu de révéler Christ en nous. Et nous avons donc fait plus que goûter cette bonne parole, mais nous avons reçu cette bonne parole de tout cœur par la grâce de Dieu. Nous avons expérimenté tout ce que cette parole nous enseigne au sujet du Christ et de sa grâce. Et puis, la cinquième description que nous avons dans le verset 5, c'est que ils ont goûté les puissances du siècle à venir. C'est-à-dire, ils ont entendu prêcher ce que la Bible annonce en ce qui concerne le siècle à venir. Le siècle à venir concerne les choses de la vie éternelle que dans cette vie nous n'expérimentons pas encore, mais ça sera la part de ce que Christ est venu racheter et que l'Esprit a révélé dans le cœur des élus de Dieu. Et la différence entre ceux qui ont vraiment cette bonne espérance concernant le siècle à venir, et quand il s'agit des puissances du siècle à venir, quand on contemple ce qui doit se passer de rendre ses corps à la vie, encore dans la résurrection à venir, quelle puissance! Et aussi le fait maintenant de pouvoir vivre pour l'éternité sans péché, avoir cette transformation du corps à tel point que nous serons dans la présence de Dieu sans péché, nous ne pouvons pas imaginer. Je crois que c'est de cela que l'auteur ici parle concernant les puissances du siècle à venir. Ceux-là qui entendaient ces prédications concernant non seulement cette vie et l'espérance que nous avons dans cette vie, mais concernant la vie à venir, tout cela, c'est l'héritage de ceux que Dieu a élus et que pour qui Christ est mort. Mais il y en a qui ont goûté, toujours dans le même sens, qu'ils ont entendu prêcher ces choses et même peut-être ont une certaine assurance en eux-mêmes que oui, cela est ma part. Pourtant, ils ne sont pas véritablement enfant de Dieu. Ça pose la question, lorsque nous lisons cela, mais comment est-ce que cela peut être possible? Qu'il y en a qui soient sous les coups de l'Évangile, et même au temps de Christ, qui ont vu de leurs propres yeux les miracles qu'il accomplissait, qui ont entendu physiquement de leurs oreilles ses enseignements et ses prédications, mais qui sont restés toujours incrédules, qui ont expérimenté peut-être eux-mêmes de grandes expériences spirituelles sans être sauvés. Ici, je tourne notre regard vers Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Notons ici dans le verset 21 à 23 les paroles de Christ. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », il y en a beaucoup qui le disent, même en tenant la Bible comme la parole de Dieu, mais c'est écrit « N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Qu'est-ce que c'est de faire la volonté de du Père? La volonté du Père, comme Jean lui-même l'a écrit, c'est que ceux qui entendent, donc il faut des oreilles pour entendre, et qui croient en lui, ceux-là font la volonté du Père, parce que c'est la volonté de Dieu que ceux-là connaissent véritablement Christ. Mais ça, ce n'est pas une promesse donnée à tout le monde. Ici, c'est écrit verset 22 de Matthieu 7. Plusieurs me diront en ces jours, là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Il y en a qui ont même pris cette parole et qui sont des prédicateurs. Pas de l'évangile, mais ils prennent la parole et ils interprètent, et ils prêchent cet évangile de leur manière. D'autres posent la question, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il y en a qui sont incrédules aujourd'hui, ils disent, oui, mais ça doit être un serviteur de Dieu parce que regarde les miracles qu'il fait ou qu'ils font. Plusieurs, soi-disant, prédicateurs, et qui font des miracles et qui guérissent. Mais nous savons, selon la Bible, surtout Paul, met en garde contre ceux-là qui font de tels signes sur la puissance de Satan. Parce que ce n'est pas le Christ de la Bible qu'ils annoncent à travers ces signes et ces miracles, c'est un autre Jésus. Et ça, c'est évident lorsqu'on pose la question à ceux-là, mais qui est Christ? Pourquoi il est venu? Qu'est-ce qu'il a accompli? Leur réponse est différente que ce que nous voyons ici dans les Écritures. Ils ne prêchent pas ce Christ souverain et ce Jésus-Christ qui est venu sauver ce que le Père lui a donné. Pour eux, c'est un Jésus qui veut que tout le monde soit sauvé. C'est notre Jésus. C'est pourquoi dans le verset 23, le Seigneur dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Et voilà le point clé de ce que nous sommes en train de voir ici dans Hébreux chapitre 6. Ce sont des gens qui font profession de connaître Christ. Mais Christ leur dit ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On peut faire beaucoup de choses dans le nom de Jésus sans être sauvé. On peut même faire beaucoup de choses extérieurement, des choses religieuses sans être sauvé. L'exemple, c'est les pharisiens à l'époque du Nouveau Testament qui ont fait beaucoup de choses religieuses. Quand les gens les regardaient, on les considérait comme hommes de Dieu. Mais ils n'étaient pas sauvés ni soumis à Dieu. Ils avaient un zèle, comme l'apôtre Paul disait d'eux, mais sans, pas selon la connaissance. Et on peut citer beaucoup de versets, d'autres versets à ce sujet, si on avait le temps. Je pense à Judas Iscariote, qui était avec les douze. Et Christ, en disant qu'il les avait appelés, néanmoins, il disait de Judas dans Matthieu chapitre 23 et le verset 15. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Ici, il s'agit des pharisiens. Mais Judas était comme eux, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. C'est pour dire que non seulement eux, ils n'étaient pas sauvés, mais ceux qu'ils convainquent par leur soi-disant évangélisation deviennent deux fois les fils de l'enfer de la géhenne qu'eux. Alors, en prenant tout cela ensemble, nous pouvons conclure ici, dans Hébreux chapitre 6, qu'il s'agit de certains qui ont passé du temps sous l'écoute du véritable message de l'Évangile, mais qui sont, en fin de compte, se sont détournés. Verset 6 et verset 6, qui sont tombés, qui se sont détournés de ce qui est clairement annoncé au sujet de Christ, qu'ils soient encore renouvelés et emmenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie, c'était des gens qui, ayant entendu prêcher le message de Christ et l'accomplissement de son œuvre pour le salut des pécheurs que le Père lui a donné, mais ayant entendu, écouté, se sont détournés maintenant pour retourner encore aux lois et aux règlements, ou bien en s'attachant à leurs propres œuvres ou l'accomplissement du salut, comme si il s'agit d'une coopération entre Christ et eux. C'est pourquoi c'est écrit qu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. C'est comme si ce n'était pas nécessaire pour que Christ vienne et accomplisse le salut à leur égard, parce qu'ils pensent qu'ils sont capables de compléter. Oui, Christ a fait sa part, mais maintenant, voilà ma part. Ceux qui raisonnent comme ça sont ceux qui crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. C'est toutefois que quelqu'un essaye de placer ses propres œuvres sur ou ensemble avec l'œuvre de Christ pour dire que voilà, l'ensemble, c'est ça qui fait le salut. Alors, cela qui fait de l'œuvre de Christ comme si il ne devait pas mourir. Paul, dans l'Épître aux Galates et le chapitre 2, l'a écrit de cette manière. Il dit, dans le verset 21 de Galates 2, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu. » Quand il s'agit de la grâce de Dieu, cela veut dire que tout est par grâce. Sans intermêler les œuvres de l'homme quelconque. Et pour ça, il dit, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu. » Je ne peux pas rejeter la grâce de Dieu ayant eu cette grâce révélée en mon cœur et mon esprit par Christ, je ne peux pas maintenant rejeter cette grâce pour me détourner ou bien ajouter encore d'autres œuvres de mes mains. Et il le dit, car si la justice s'obtient par la loi, il s'agit là de, si la justice, être juste devant Dieu, s'obtient par mes œuvres de la loi, notons comment il le dit, Christ est donc mort en vain. Vous faites de l'œuvre de Christ une vanité. Exactement comme ici, ceux qui, par leur pensée, par leur acte, en fait, crucifient pour leur part le Fils de Dieu. On ne peut pas crucifier Christ deux fois. Il est venu, il a souffert, il a accompli tout ce que le Père exigeait de lui à la satisfaction de la loi et la justice de Dieu. Donc, son œuvre est accomplie à l'égard de son peuple. Mais il y en a qui l'exposent de nouveau à l'ignominie. Pourquoi ils ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi ils l'ont mis sur la croix? Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec qui il est et pourquoi il est venu et ce qu'il est venu accomplir pour le salut des pécheurs, c'est pourquoi ils l'ont crucifié. Et c'est ce que l'auteur ici est en train de dire. Que ceux qui rejettent cette œuvre parfaite du Seigneur Jésus-Christ sont comme ceux qui veulent de nouveau le crucifier. Alors, c'est pourquoi je dis que ce qui est exprimé ici ne peut pas être vrai d'un véritable enfant de Dieu. Mais plutôt, il s'agit de ceux, et voilà, ceux qui sont mis en garde contre cette apostasie, les dangers, c'est d'être de ce nom qui ont le privilège, comme nous, d'écouter régulièrement cet évangile et qui ont le privilège de prêcher cet évangile. Garde à nous maintenant de nous détourner ou bien changer le message pour plaire aux gens afin d'être vu devant les gens comme plus populaires. Je dois vous dire que ce n'est pas facile de prêcher cet évangile dans ce monde. Et il faut s'entendre à être isolé et opposé parce que ce message de Christ et Christ seul n'est pas populaire, mais par la grâce de Dieu, nous nous tenons sans nous détourner comme d'autres. Et pour conclure, ici dans les versets 7 et 8, nous avons alors une illustration tirée de la nature concernant une terre qui ne fait que produire des épines. Si c'est une terre cultivée déjà par la grâce de Dieu et par l'Esprit de Dieu, donc lorsque l'Évangile, c'est comme la lumière qui brille dans les lieux ténébreux et ici comme une terre qui a besoin de l'eau, la terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qu'elle est cultivée. Elle participe véritablement à la bénédiction de Dieu. C'est par là qu'on peut savoir que c'est une bonne terre. Nous savons qu'en nous-mêmes, il n'y a rien en nous qui est bon, mais lorsqu'il plaît à Dieu de prendre ce cœur et tourner ce cœur à Christ et de régénérer ce cœur, rendre ce cœur à la vie pour que on puisse voir de Christ et manger de lui, pas seulement goûter, mais voir de lui, c'est ainsi que nous voyons le fruit et l'évidence que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Mais si c'est une question, et il y en a dans nos assemblées comme ça, depuis des années, ils sont sous l'écoute de ce message de l'Évangile, mais ils restaient inconvertis. Tout ce qu'on peut dire, c'est ils sont en danger d'être comme ceux qui sont décrits ici, que si Dieu les laisse dans cet état, il est impossible que cela soit renouvelé encore et amené à la repentance. C'est une preuve que Dieu les a abandonnés, comme c'est écrit ici de cette terre qui produit des épines et des chardons. Elle est réprouvée. Soit nous sommes acceptés déjà en Jésus-Christ ou c'est écrit réprouvé et prêt d'être maudits et on finit par y mettre le feu. Voilà ce qui attend ceux qui ne sont pas à Christ et combien le nombre de ceux qui ont ces paroles que nous avons mais qui restent inconvertis. C'est pourquoi Paul dans 2 Corinthiens chapitre 13 et le verset 5, il nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Nous ne devons pas prendre un tel passage comme Hébreux 6 à la légère pour dire, oh oui, mais ça ne me concerne pas, ça concerne d'autres. Non, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. C'est pourquoi Paul même, lorsqu'il est arrivé dans Actes chapitre 11 et le verset 23, il exhortait ceux qui avaient fait profession lors de son premier passage en prêchant l'évangile, mais il est retourné encore. Et dans Actes chapitre 11, verset 23, c'est écrit, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il exhorta tous, quoi, à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Voilà comment nous devons prêcher cet évangile. Ce n'est pas simplement d'appréhender, de comprendre certaines, ce qu'on appelle doctrine de la grâce, pour dire, voilà, ça y est, je les ai, oui, mais quel effet est-ce que, pas les doctrines, mais la doctrine de la grâce, la doctrine de Christ, quel effet est-ce que cela a eu dans votre cœur? Parce que si réellement l'Esprit de Dieu nous parle le cœur, pour révéler Christ en nous, nous serions comme ceux décrits ici autrefois, en fin de compte, comme une terre des épines et des charbons réprouvés près d'être maudites, et on finit par y mettre le feu. Alors que le Seigneur bénisse cette parole et que son œuvre soit une vraie œuvre en nous, une œuvre de grâce, selon l'œuvre de Christ. Amen.